France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Homère philosophe, c'est notre série de cette semaine. Nous explorons l'univers de l'Iliade et de l'Odyssée, où tant d'enjeux philosophiques se dessinent, la notion d'histoire, d'événement, le statut des dieux. Ce matin, l'héroïsme selon Homère. La beauté, elle est omniprésente à chaque fois que Homère décrit un geste, un personnage, un combat héroïque. L'héroïsme homérien se voit toujours dans le corps. C'est manifeste dans l'Iliade et cela institue d'ailleurs un contraste entre le monde des hommes et celui des femmes. Celles-ci sont présentes certes, admirables parfois et même souvent, mais elles sont bien peu décrites, comme si elles n'avaient pas de corps au même titre qu'un Achille ou un Hector. Quant aux déesses, elles peuvent changer de forme comme on l'a vu dans notre épisode d'hier, ce n'est donc pas du jeu. Il est donc clair que l'héroïsme est d'abord et essentiellement masculin chez Homère, mais il désigne une force virile qui est toujours alliée, dans une certaine mesure, à de la faiblesse, à de la souffrance, à de l'émotion. Aussi vigoureux et courageux qu'il soit, le héros ne maîtrise pas tout, et certainement pas ses pleurs, ses chagrins, ses blessures. Et de leur côté, les femmes ont beau être reléguées à la maisonnée, leur façon d'endurer la mort au combat de leur mari ou de leur fils tisse un lien entre elles et les souffrances de tous ces hommes héroïques. De tout cela, nous parlons ce matin. Bonjour Hélène Monsacré.
Bonjour.
Helléniste, vous avez publié un ouvrage qui a fait date. On en parlera du contexte. En 1984, chez Albin Michel, il s'intitule « Les larmes d'Achille ». Le héros, la femme et la souffrance dans la poésie de Homère. Ce livre a été réédité aux éditions du Félin. Et vous êtes aussi éditrice aux Belles Lettres, maison où a été publié en partenariat avec Albin Michel un livre intitulé « Tout Homère » que nous citions déjà hier. Vous l'avez dirigé, le traducteur était Pierre Judet de la Combe, très présent lui aussi dans notre série de cette semaine sur Homère. Et bonjour Denis Cambouchner.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste notamment de Descartes. Ô combien vos publications sur Descartes et vos éditions de ses œuvres ne se comptent plus. Mais beaucoup de choses vous intéressent, Denis Cambouchner, l'œuvre de Jacques Derrida, par exemple, la littérature, la musique. En 2011, quand vos enfants étaient encore petits, vous avez écrit sous pseudonyme un roman reprenant plusieurs péripéties de l'Iliade. C'est l'histoire d'un garçon de 13 ans qui, grâce à une boule en cristal, se retrouve soudain juste à côté d'Achille et vit la guerre de Troie. Ce roman, les Belles Lettres l'ont réédité il y a quelques mois, sous votre nom maintenant, et avec comme titre « Rendez-vous à Troie ». On va en parler. Je vous propose de commencer cette émission sur l'héroïsme selon Homère, par le grand moment de l'Iliade où l'héroïsme se déploie, une sorte de sommet, le combat entre Hector et Achille. Alors j'attends avec impatience que vous m'expliquiez la différence entre ces deux héroïsmes, s'il y en a une, celui du prince troyen Hector et celui de l'Athénien Achille. Ce dernier en tout cas semble ne pas avoir voulu tout de suite le combat. Il a commencé par ne pas céder aux provocations d'Hector. Écoutez cet extrait du film « Troie » de Wolfgang Petersen, sorti en 2004.
Il faut être très courageux ou complètement stupide pour me poursuivre seul. Tu es sûrement Hector. Tu sais qui je suis.
Ces prêtres n'étaient pas armés. Viens te battre!
Pourquoi te tuerais-je maintenant, prince de Troie? Personne ne te verrait tomber.
Pourquoi es-tu venu combattre?
Dans un millier d'années, on parlera toujours de cette guerre.
Dans un millier d'années, même la poussière de nos os aura disparu.
C'est vrai. Mais nos noms ne seront pas oubliés. Rentre chez toi, prince. Bois du vin, fais l'amour à ta femme. Demain, nous ferons la guerre.
Pourquoi le laisser partir?
Le soleil n'est pas assez haut dans le ciel pour tuer les princes.
Un combat retardé, mais Hector ne perd rien pour attendre. Écoutez Homère cette fois décrire cette joute mémorable.
Évitons au moins de disparaître sans lutte et sans gloire. Qu'il y ait d'abord un grand exploit qu'apprendront aussi les hommes à venir. Hector dit ces mots, tira son épée aiguë, grande, compacte. Elle était en long sous son flanc. Il attaqua, serré sur lui-même, comme l'aigle de haut vol qui va vers la plaine au travers des nuages ténébreux pour saisir un agneau tendre ou un lièvre blotti. De même, Hector, qui agitait l'épée aiguë, attaqua. Achille s'élança, il emplit son cœur d'une fureur sauvage et, au-devant, cacha sa poitrine sous le bouclier de belle orfèvrerie. Il fit osciller son casque lumineux à quatre plaques. Beau, tout autour, s'agitaient les crins dorés. Héphaïstos les avait jetés en masse autour du panache. Comme parmi les astres, à l'heure de la traite nocturne, avance l'astre du soir qui prend place dans le ciel en astre le plus beau, ainsi, une lumière venait de la lance de bonne pointe. Achille la brandissait de la main droite, avec une idée mauvaise pour le divin Hector. Il scrutait le beau corps, là où il céderait le mieux. Son corps était presque entièrement couvert par les armes de bronze, belles, dont, de force, il avait dépouillé Patrocle après l'avoir tué. Mais il se montrait au lieu où les clavicules séparent le cou des épaules, à la gorge, là où la perte de l'âme est la plus rapide. Là, avec sa lance, le divin Achille l'atteignit dans son élan. Tout droit, la pointe avança à travers le tendre cou. Mais le frêne lourd de bronze ne coupa pas la trachée pour qu'Hector pût parler et répondre par des mots. Il chavira dans la poussière et le divin Achille triompha.
C'était le chant 22 de l'Iliade d'Homère. Hélène Monsacré, ce texte est inoubliable, majeur dans notre tradition occidentale. Je note que les deux héros sont qualifiés de divins à un moment donné, aussi bien Achille que Hector. Je note que la beauté est partout, un petit peu différemment, pour l'un et pour l'autre. Achille a un beau corps. Hector a de belles armes, il est magnifique, il brille de l'or, des armes qu'il a prises à Patrocle quand il l'a tué, Patrocle, ami d'Achille. Vous insistez beaucoup sur l'héroïsme comme beauté dans vos travaux, Hélène Monsacré. Leur beauté, à tous deux, est-elle différente?
Je ne dirais pas qu'elle est différente, mais je pense que dans ce moment absolument central, puisque ce sont les deux grands héros qui vont enfin se rencontrer. C'était le seul objet de l'Iliade et de la colère d'Achille, c'est d'arriver à se qualifier par un immense exploit. Patrocle, son double, son ami, son amant, est tué par Hector, un peu aidé par des dieux. Il est évident qu'il faut qu'il tue Hector. Leur beauté, évidemment, est très souligné, parce que ce sont les deux principaux combattants, le Troyen, le Grec. Hector, c'est l'éclat, le scintillement, la luminosité de ses armes. Achille, qui bien souvent est caractérisé par des armes extraordinaires, lui, c'est carrément l'éclat de sa personne. Et avant de reprendre le combat, donc avant ce chant 22 qui va être le nœud de l'histoire, quand il reprend le chemin du champ de bataille,
oui,
c'est la lueur de sa personne, c'est le cri, la voix, le son de ses dents qui s'entrechoquent, qui signalent d'une manière, on pourrait presque dire un peu cosmique, ça y est, il est de retour. Donc, ce sont des beautés, évidemment, très, très accentuées, parce que ce sont les plus beaux des héros. Mais je pense que chez Achille, c'est quelque chose de carrément supérieur. C'est, c'est, c'est au-delà, c'est, on peut le dire, c'est divin. Mmh. Et la beauté du corps d'Hector, pardon.
Oui. Non, je vous en prie.
N'oublions pas que les armes que Hector a revêtues sont celles, ce sont les premières armes d'Achille, puisque Patrocle est parti au combat pour essayer de stopper la déroute terrible des Grecs, depuis qu'Achille ne combat plus, en empruntant les armes d'Achille. Et ces armes sont ajustées à Achille et automatiquement étaient ajustées à Patrocle. Hector les revêt.
Oui.
Il est splendide, magnifique, on vient de l'entendre.
Elles lui vont bien aussi à lui.
Elles lui vont bien aussi, mais pas totalement. Et le petit morceau, là, entre la clavicule et le bas du casque, c'est là que la lance d'Achille va pénétrer. Et ce corps, et je termine pour l'instant, ce corps d'Hector, cette fois-ci, est d'une beauté magnifique, mais c'est une beauté tendre, quasiment féminine. Le cou est clair, et la peau est lumineuse, elle est tendre, elle est fragile, elle est féminine. Et Jean-Pierre Vernant a magnifiquement montré que la belle mort du héros, sur le champ de bataille, dans l'épopée, devant les murs de Troie, c'est à la fois le maximum de la virilité, dans l'exploit, dans le combat, mais c'est aussi une sorte de corps offert, une fois que le guerrier est tombé, un corps offert à ses ennemis, comme une sorte de... C'est totalement érotique. Il est beau, il est tendre, il est lumineux, on le tâte, on le touche. Voilà,
vous êtes
une des caractéristiques de l'héroïsme.
Ah, ça, c'est une entrée dans le sujet absolument somptueuse. Merci, Hélène Monsacré. Et donc, je vous passe la parole à vous, Denis Kambouchner, si séduit par l'Iliade. Est-ce pour toutes les raisons que vient de dire Hélène Monsacré ?
Tout est magnifique dans l'Iliade. C'est pas compliqué. Bon, c'est un texte très long, très long. Il ne faut pas se dissimuler qu'une lecture intégrale, surtout pour les jeunes lecteurs aujourd'hui, ça tient de l'impossible. Il y a des récits de bataille avec des noms à profusion, des dizaines, des centaines de noms. Il faut évidemment évoquer les Grecs de chaque région. Enfin, c'est très... il y a des règles impératives dans ce texte, mais c'est d'une insurpassable beauté chaque fois qu'on tombe, notamment sur... des dialogues, chaque fois que le poète décrit la relation entre des hommes. Alors je suis très sensible à la différence en effet entre Hector et Achille. Achille, fils de déesse, la déesse Thétis est un être plus divin qu'Hector, qui est plus humain qu'Achille. Et j'ai en tête ce passage dans le grand moment très célèbre du chant 6 où Hector débat avec sa femme Andromaque, sa femme qui est la belle femme, une femme remarquable, une femme modèle. Et Hector lui dit « J'ai honte, enfin c'est l'aïdos, c'est la retenue, j'aurai honte de demeurer comme un lâche loin de la bataille, donc il faut que j'y aille. J'ai appris à être brave en tout temps pour gagner une immense gloire à mon père et à moi-même, mais j'ai moins souci de la douleur qui attend les Troyens que de la tienne, hein, si je meurs. Hein, et on le sent, l'homme de devoir, ce qu'Achille n'est pas exactement. Alors je voudrais quand même revenir sur l'extrait sonore du film 3. J'ai détesté ce film, dont je n'ai qu'un souvenir lointain, mais qui est une hollywoodisation indigne de la légende. Et rien n'y passe, rien n'y passe d'humain, parce que aussi rien n'y passe de divin. Les dieux sont absents. C'est un film, c'est l'Iliade sans les dieux. Donc ça n'est rien, parce que comme Pierre Judet de Lacombe le rappelait hier, Les dieux, c'est le réel. C'est, les dieux sont ceux par qui les choses arrivent. Et si Zeus ou Apollon ou Athéna ne met pas quelque chose dans le cœur d'un guerrier, il se passe rien. Et si les dieux retirent leur faveur, c'est le malheur. Donc cet aspect-là est complètement gommé et les dialogues sont caricaturaux.
Alors, je ne vais pas du tout défendre le film, mais je voudrais justifier l'extrait que nous en avons choisi en faisant un lien avec une analyse de Hélène Monsacré. Vous écrivez, Hélène Monsacré, que il y a les vrais héros comme Achille et dans son genre Hector, et puis il y a des figures masculines d'excellents amants comme Paris, mais qui ne sont pas très héroïques, qui ne sont pas de très bons combattants. Alors que Hector, c'est pas la question charnelle qui est au centre de sa relation avec Andromaque, telle qu'elle apparaît, en tout cas dans le texte. Et donc je trouve assez intéressant, et pas si bête, dans le film, d'avoir mis en scène Achille, je crois que c'est Brad Pitt, disant à Hector, parce qu'il se retient, il ne veut pas encore combattre, « Allez, rentre chez toi, fais l'amour à ta femme. » Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, par exemple, ce qu'est Paris, l'amant pas très héroïque. J'en étais d'autant plus surprise que Paris est celui qui va tuer Achille. Oui. Donc là, il y a quelque chose autour d'Eros, puisque vous avez commencé avec Eros, que j'aimerais mieux comprendre.
Alors, je vais essayer de vous répondre. Une précision. Le film, effectivement, bon, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord. Mais moi, je dis que Brad Pitt est magnifique.
Mais vous il êtes formidable.
Oui, c'est vrai, il est très beau.
Et c'est le seul qui a un peu d'épaisseur dans ce film. Oui. Il est tourmenté, il est... Bon, alors, passons à Paris, qui est d'une... Alors, le contraire absolu d'Hector, mais aussi et surtout d'Achille, et presque d'une certaine manière de Brad Pitt. Bon, alors, même si Paris est qualifié de. C'est une espèce de dragueur incroyable. C'est un très bel homme. Denis, dans son roman, c'est là qu'on nous ne sommes pas d'accord, dit que Paris est presque plus beau qu'Achille. Pour moi, c'est non. Mais c'est une affaire personnelle qui n'a aucun intérêt.
Non, c'est une affaire grecque.
Une affaire
pour un grec, c'est pas possible d'être plus beau que le plus grand héros.
C'est le jeune garçon qui dit ça, ce n'est pas moi.
Non, alors Paris, c'est un... Il a une histoire très compliquée, on n'a pas le temps. Vous savez que c'est par sa faute, mais totalement téléguidée, bien évidemment, par les dieux, que Hélène de Troie va être enlevée. Hélène de Sparte va être enlevée par Paris et devenir Hélène de Troie. C'est un piètre combattant dans la mesure où c'est essentiellement c'est un archer. Les archers ne sont pas à proprement parler les plus courageux. Les archers ne combattent pas Promachos. Ils ne sont pas devant. Ils sont généralement cachés, pour ne pas dire planqués. Bon. Et Paris, lorsqu'il est sur le champ de bataille, est toujours en position, je dirais, oblique, latérale, soit cachée, soit parce que sa déesse tutélaire, Aphrodite, quand il est en mauvaise posture, hop, vient le prendre
protéger,
dans ses bras, le protéger littéralement l'extraire du champ de bataille. Donc c'est quelqu'un qui est plus tourné vers en effet les affaires de l'amour. Il est assez fanfaron et en réalité très pleutre, parce que je pense qu'hier Pierre Judé de la Combe, en vous répondant, évoquer effectivement la quantité d'humour qu'il y a dans l'épopée, et particulièrement dans l'Iliade. Et là, cette scène est grotesque.
Quelle scène ?
La scène du chant 3, qui est censée, puisqu'ils sont là depuis 9 ans, ça commence à être un peu long, censée mettre un terme à la guerre. Alors, d'un commun accord, les chefs des deux Kant décide de provoquer un combat singulier entre Paris et le roi, comment dire, dont l'honneur a été bafoué, Ménélas. Normal, puisque ce sont les deux époux d'Hélène. Bon. La scène est très, très, très marrante, parce que Paris est carrément... Enfin, peut-être pas déguisé, mais pas loin. Ses armes sont ultra sophistiquées, il brille, il est presque, on pourrait dire, pommadé. Vous voyez ? Non, c'est vrai, oui. Ce sont les mots. Je les adapte. Mais ça ne va pas du tout. Au premier coup de lance, il s'écrabouille, il fuit, Aphrodite arrive, le protège. Donc, je veux dire par là que ce ne sont pas ses affaires.
Mais alors, attendez, parce que comment se fait-il alors que Homère choisisse Paris, le pleutre, comme vous venez de le dire, pour achever Achille parce que il tape à l'endroit sensible, oui, qui est le talon d'Achille. C'est troublant.
C'est très troublant, mais là, c'est très compliqué. Et je ne voudrais pas parler trop longtemps. Mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que dans l'épopée, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, il n'est pas question de la mort d'Achille. On sait qu'elle va arriver. Il la prononce, il la répète du début à la fin. Achille dit « Je sais que je vais mourir, je sais que je vais mourir jeune ». Mais on n'assiste pas à sa mort. La légende qui est devenue vraiment une légende avec cette histoire de talon d'Achille, etc., c'est très postérieur, c'est un montage, je dirais, je pense, je parle sous le contrôle de Denis, de plusieurs morceaux qui ont surnagé, et c'est une si belle histoire. Mais non, on n'en sait rien.
Donc ce n'est pas... centrale du tout, la question de la mort d'Achille.
Pas chez Homère, du tout.
Pourquoi, Denis Cambouchner, avez-vous écrit ce roman il y a déjà plus de 10 ans?
Oh, plus que ça, oui.
Et en fait, il a été publié une première fois sous un pseudo avec vos initiales quand même.
Oui, il y a 15 ans. Et puis
comment il s'appelait le pseudonyme?
Daniel Camer, ouais. Oui.
Vous vouliez pas que toute l'université française sache que
je m'occupais de l'agrégation de philosophie à ce moment-là et je ne voulais pas mélanger les genres.
Bon, et donc vous faites voyager un petit garçon. Oui. Et évidemment, il arrive immédiatement à côté d'Achille, ça, c'est bien vu. Il est ébloui. Qu'est-ce qu'il va apprendre, ce petit garçon ?
Alors, c'est un garçon, il a 13 ans, il a eu, notamment au collège, un excellent professeur de français, prénommé Émile, et qui est d'origine sénégalaise, et qui a déjà familiarisé ses élèves avec cette littérature. Donc il sait un peu, aussi par ses lectures, parce que c'est un garçon éveillé, il a des livres chez lui, et quand il arrive chez les Grecs par la grâce d'une boule de cristal oubliée dans un grenier de banlieue, il sait qu'il arrive sur le rivage de la guerre de Troie. Il le sait. À partir de là, accueilli gentiment par Achille et Patrocle, qui sont, je ne vais pas raconter tout, mais qui apparemment ne sont pas très surpris de recevoir ainsi ce que j'appelle un voyageur. Et ces voyageurs sont invisibles. Il apprendra qu'il n'est pas le seul, il y en a à trois même. Mais il est invisible et invulnérable, enfin il se rend invisible quand il veut. Donc il est accueilli très, très gentiment et entre en dialogue avec eux. Donc il y a une partie de dialogue inventée dans le roman, en même temps que de larges citations, c'est plus que quelques épisodes de l'Iliade, je restitue autant que possible le fil directeur et les épisodes les plus marquants, y compris celui dans lequel Paris est emporté par Aphrodite dans son combat contre Ménélas, dans le pseudo-combat dont nous parlions à l'instant, il est emporté dans un dans un nuage et il arrive dans son lit avec Aphrodite qui lui dit de prendre du temps avec Hélène, et Hélène n'est pas contente. Elle lui dit qu'il est un lâche. Qu'est-ce que va apprendre, pour revenir à votre question, oui. Que va apprendre ce garçon? Ben, d'une certaine manière, tout. Il a une notion du déroulé de l'histoire, de même du reste que les personnages et les héros. Hélène qui est ici l'évoquait tout à l'heure. Achille a plus que le pressentiment de sa mort jeune et glorieuse. C'est plus qu'un pressentiment, c'est une certitude. Même s'il dit écoutez, puisque c'est comme ça, je vais reprendre mes vaisseaux et mes hommes et rentrer chez moi en Phti, une province de la Grèce, en dessous de la Thessalie. Donc que va apprendre ce garçon? Tout.
Oui, mais je voudrais revenir au problème de la beauté.
Humaine, il y a une expérience humaine. Naturellement, il ne voit pas les dieux, lui. Il arrive à les reconnaître, mais il y a une expérience humaine auprès de ces grands personnages, y compris auprès d'Hélène, enfin, à un moment donné, l'Hélène qui est à Troie, et qui est sans comparaison.
Mais je me demande si ce n'est pas aussi la beauté qui est le centre de son apprentissage. C'est un peu notre...
Naturellement.
Mais notre axe, pour aborder l'héroïne, c'est Hélène Monsacré qui me l'a suggéré. Mais peut-être apprend-il... que justement, il y a une beauté à ne pas craindre la mort. Ce qui compte, c'est le comment. Comment on va mourir et comment on va rester dans la mémoire des autres. C'est ça, l'héroïsme grec. Et c'est cette beauté-là dont vous pensez que nous, qui sommes dans une civilisation aujourd'hui qui a horriblement peur de la mort, d'ailleurs, je me mets dedans, on crève de peur tous. Est-ce que c'est important pour ce garçon de se confronter à cette beauté étrange d'hommes magnifiques qui savent qu'ils vont mourir et qui travaillent sur le comment mourir et comment rester dans la mémoire plutôt qu'ils ne travailleraient à préserver leur vie?
Oui, naturellement. C'est-à-dire, il a affaire à des hommes qui sont d'une autre trempe et des femmes aussi, pour autant qu'elles apparaissent, qui sont d'une autre trempe que les personnes qu'il fréquente ordinairement. Il est aussi très sensible aux accès de faiblesse. Dont nous parlions, c'est-à-dire,
nous allons y revenir.
Ce qui est frappant, c'est la complexité de la conscience que ces héros ont de leur action, de leur tâche. Alors effectivement, à certains moments, Achille, quand il revient dans la bataille, comme Hector auparavant, commet des massacres. Il y a des épisodes terribles. Quand Achille, à un moment donné, après la mort de Patrocle, pour venger Patrocle, massacre 12 jeunes Troyens en les jetant dans le fleuve.
Après
les avoir égorgés. Donc il y a des éléments de cruauté.
Et qu'est-ce qu'on fait de cette cruauté dans notre lecture d'aujourd'hui?
On l'enregistre. Comment voulez-vous faire?
Qu'est-ce que vous lui faites faire à comme geste psychique, j'ai envie de dire, à votre petit garçon de 13 ans qui voit
tout ça? Il est horrifié, bien entendu. Il est horrifié. Mais bon, il est dans le fil de l'épopée, comme le lecteur. Et ce qu'il enregistre aussi, c'est la complexité de la conscience que aussi bien Achille, Hector... Patrocle s'exprime peu. Il est toujours là, mais il s'exprime très peu. Mais même Agamemnon ont de leur action. Ces personnages savent qu'ils obéissent aux dieux, que les dieux les commandent d'une certaine manière, et puis en même temps, comment dirais-je, ils réagissent à ce commandement lui-même. Et ils ont des moments de, même Agamemnon, dès le chant 2, a un moment de repentir par rapport à la querelle qu'il oppose à Achille.
Je vais vous faire réagir à tout cela, évidemment, Hélène Monsacré. Je voudrais préciser que la question de ce que ce petit garçon, pas si petit, mais quand même 13 ans, apprend dans le roman que vous avez écrit, Denis Kongo-Bouchner, n'est pas totalement sans rapport avec un autre livre que vous avez publié aussi ces derniers mois aux Belles Lettres, qui est un essai sur l'éducation, sujet qui vous intéresse beaucoup, et ça s'appelle « Des enfants instruits ». Donc nous allons revenir aussi à ce problème. Alors, non pas avançons dans l'Iliade, mais remontons légèrement en arrière avant le combat d'Achille et Hector. Il faut se rappeler qu'il y a eu un moment donc où Achille, très en colère contre Agamemnon, vous l'avez rappelé vous-même, ne voulait plus combattre, ce qui était désastreux pour le camp des Athéniens. Qu'est-ce qui l'a ramené vers le combat? Eh bien, c'est le fait que le Troyen Hector a tué son ami Patrocle, et c'est ce chagrin immense qui change la donne. En faisant couler les larmes d'Achille, image qui a donné son titre à votre livre, Hélène Monsacré. On écoute Homère.
Arriva près d'Achille le fils du grandiose Nestor, qui versait des larmes chaudes. Il lui dit la nouvelle douloureuse. Malheur, fils de Pélée à la pensée de bataille. Lugubre, la nouvelle que tu vas apprendre, elle aurait dû ne pas être. Patrocle est à terre. Ils se battent autour du cadavre, qui est nu, car les armes, Hector casqué de 1000 reflets, les tient. Il dit cela. Un nuage noir de chagrin le recouvrit. Prenant des deux mains une poussière brûlée par le feu, il la versa sur sa tête et enlaidit son visage délicieux. Sur la tunique de nectar, tout autour, s'installait la cendre noire. Lui, grand, étendu en grande place dans la poussière, gisait et de ses mains enlaidissait sa chevelure qui lacérait. Les servantes qu'Achille et Patrocle avaient capturées, le cœur accablé, hurlaient en grande force et, sortant des portes, couraient autour d'Achille à la pensée de bataille. De leurs mains, toutes se frappaient la poitrine et les genoux de chacune se dénouèrent. Antiloque, en face, se lamentait et versait des larmes. Il tenait les mains d'Achille. Il gémissait dans son cœur magnifique, car il craignait que d'un fer il ne se tranche la gorge. Achille gémit terriblement, et sa puissante mère l'entendit, assise dans les gouffres de la mer auprès de son vieux père. Elle poussa le cri funèbre et l'entourèrent toutes les déesses filles de Néré qui étaient au fond des gouffres de la mer.
Alors avant de vous entendre commenter le gémissement d'Achille et ses larmes, permettez-moi de vous faire entendre ce qui va changer justement après. Le voilà, Achille déterminé à nouveau à combattre pour venger son ami Patrocle et tout d'un coup, c'est un homme de la maîtrise et de la détermination qui s'adresse à son chef Agamemnon.
Achille, rapide à la course, se dressa au milieu et parla. Atride, était-il vraiment mieux pour nous deux, toi et moi, qu'avec nos deux cœurs tourmentés, nous nous enragions à cause d'une fille dans une querelle dévoreuse de vie? Artémis aurait dû la supprimer d'une flèche sur mes bateaux le jour où je l'ai prise quand j'ai détruit l'Irnessos. Moins d'Achéens auraient saisi de leurs dents la terre ineffable sous les coups des ennemis, tandis que je colérais au loin. Hector et les Troyens en ont tiré profit. Les Achéens se souviendront longtemps, je pense, de la querelle entre moi et toi. Mais laissons ce qui est d'avant, malgré notre tourment. La nécessité nous oblige à maîtriser notre ardeur. Aujourd'hui, j'arrête mon amertume. Je ne dois pas perpétuellement me dessécher de rage. Vite, pousse les Achéens au crâne chevelu à se battre. Mon assaut mettra à l'épreuve les Troyens, et je saurai s'ils veulent toujours dormir près des bateaux. Seul, je pense, détendra ses genoux avec plaisir celui que ma lance aura fait fuir loin du combat meurtrier.
Hélène Monsacré, les larmes d'Achille, sa souffrance, ce deuil de Patrocle, ça change tout. Est-ce que c'est l'événement, au sens grec, l'événement ?
Oui, c'est la bascule. C'est-à-dire, la bascule, en réalité, il y a plusieurs bascules. La première, c'est que, vous l'avez évoqué, Agamemnon a pris la part d'honneur d'Achille, Briseis, et c'est donc un outrage. Voilà du côté aussi de l'héroïsme. L'héroïsme, il y a des valeurs. On doit être en avant, courageux, mais aussi on a le sens de la justice et de l'honneur.
Et on respecte les interdits.
On ne vous dépossède pas de quelque chose. Bon. Première bascule, il se retire du combat et c'est la déroute, bon, pas toujours, mais enfin assez longuement au cœur du poème. À ce moment-là, le second, je dirais, c'est Ajax. C'est un autre sujet. Ce qui change avec la nouvelle de la mort de Patrocle et l'expression d'une souffrance épouvantable, qui, le premier extrait, en 20 vers environ, nous apporte un télescopage extraordinaire. Il y a l'enlaidissement du corps. Achille se mutile, s'enlaidit, occupe la place d'un cadavre. Bon. Il y a les servantes qui sont, c'est le rituel funèbre.
Elle pleure,
elle s'arrache les cheveux, elle se griffe les joues, etc.
Et lui, il pleure aussi.
On lui retient les mains parce qu'on a peur qu'il se tue, qu'il se suicide. C'est toujours la même chose. C'est sa mort est là, elle arrive de plus en plus. Donc c'est magnifique ce passage. Pourquoi d'abord, c'est parce que c'est un moment extraordinaire du poème, mais c'est aussi le concentré de tout ce qui fait la force, la vaillance, l'extrême virilité d'Achille, qui là, dans sa souffrance, exprime dans son corps le maximum de sa force.
Il paraît, Hélène Monsacré, que quand vous avez publié votre livre « Les larmes d'Achille » en 1984,
oui.
Les grands professeurs que nous admirons tous et à qui il faut rendre hommage ce matin, oui. Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Nicole Laureau, mais c'est surtout des messieurs dont je voulais parler. Il paraît qu'ils ont quand même été soufflés. Oh, personne n'avait jamais dit, comme vous, à quel point la force du héros grec, c'est de savoir pleurer et d'être faible.
Écoutez, c'est très émouvant ce que vous signalez là, parce que c'est il y a bien longtemps. Et pourquoi c'est émouvant? Pour deux raisons, au moins. D'abord, parce qu'en effet, c'était d'immenses professeurs. Et j'ai ce souvenir de notamment Vernon, quand je lui disais où j'étais dans l'avancement de mon travail, de mon travail de thèse, il me disait, enfin, avec sa façon un peu très particulière de s'exprimer, mais enfin, tu rigoles, Achille n'est pas en train de pleurer, sous-entendu, même s'il ne l'a pas dit, c'est pas une femmelette. C'est absolument ça. Émouvant à un autre niveau, cette évocation du moment de la rédaction de ce travail, c'est que Nicole Laureau, particulièrement, était une vraie pionnière et, avec Françoise Héritier, commençait dans les années 80, début 80, à réfléchir à ce que pouvait bien être le masculin, le féminin.
Dans le
c'est
grec,
dans ce sillage que je me suis inscrite avec, très très modestement, comme une jeune chercheuse. Et je dois dire que tout ce qui depuis occupe les classicistes, les hellénistes, certes c'est intéressant, mais enfin arrêtons de voir dans un poème épique qui raconte la guerre, jusqu'à preuve du contraire, quand on n'a que son corps et la force de ses muscles, c'est plutôt les hommes qui la font. Bon, on peut pas dire que des femmes ne peuvent pas. Mais enfin, c'est comme ça dans l'Iliade et chez Homère. Mais je trouve qu'il serait bon d'arrêter de voir systématiquement des choses qui enfin, plaquer des,
ouais, virilisme.
Le virilisme, le masculinisme, le suprémacisme blanc. Enfin, tout ça est insupportable, à mon sens, parce que c'est une méconnaissance. C'est une, l'Iliade, l'Odyssée, c'est de la poésie. C'est plein de contradictions. Il n'y a pas de pensée rationnelle, il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale. Il y a une manière extraordinairement, à mon sens, belle de dire les souffrances, les inquiétudes, la finitude des humains. Bon.
Je vous laisse, je ne vous pose aucune question, je vous laisse immédiatement réagir,
oui,
Dionysse Mouchner, à ce qui vient d'être dit par Hélène Monsacré.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Hélène Monsacré sur tout ceci. Je dirais, alors, pas de pensée rationnelle dans l'Iliade. Il y en a plein, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, il n'y a pas de doctrine.
On n'est pas organisé.
Voilà, c'est ça. Mais,
ça que j'ai voulu dire maladroitement.
Comme vos invités d'hier, oui. Ça discute... tout le temps. Mmh. Et il y a des morceaux tout à fait extraordinaires dans l'Iliade, aussi bien la dispute entre Agamemnon et Achille au chant 1. Achille qui dit « Tu n'as pas le droit de me prendre Briseis » et Agamemnon qui dit « Mais le prêtre Chrysès a été longuement évoqué hier. Le prêtre Chrysès m'a pris celle qui devait être ma pardonneur, sa fille Chryséis, et moi j'ai besoin d'une pardonneur, je suis le roi, c'est moi qui commande ici, et donc je la prendrai comme je veux. » Bon, il y a toute cette discussion, et puis il y a au chant 9, l'ambassade à Achille, quand Ulysse... Phénix. Et j'oublie le troisième.
C'est pas grave.
Diomède. Ajax.
Oui,
pardon. Ajax.
Oui.
Viennent voir Achille en lui disant la situation est grave, les Troyens nous assiègent, on t'offre tout. Hein. Et à ce moment-là, Agamemnon propose même de rendre Briseis. Qu'il jure ne jamais avoir touché, et Achille dit non, il m'a trop offensé, mais ce sont des discours qui prennent 100, 150 vers, et où il est question de la justice, sans cesse. Hein. Qu'est-ce qui est juste, en l'occurrence? Donc c'est une préfiguration des grands, même si ça n'est pas de la philosophie, c'est une préfiguration tout de même des grandes discussions philosophiques auxquelles la culture grecque nous aura préparé.
Mais ouais. Je voudrais revenir au problème qu'a soulevé Hélène Monsacré. Il y a un virilisme chez les Grecs. Une beauté masculine singulière. Alors, vous dites très bien que même Hélène, qui est la femme la plus irrésistible du monde, elle n'est jamais décrite
non.
Par Homère. Il y a une certaine valorisation du masculin. Il y a aussi le fait que c'est un... Et ça, ils sont tous concernés, hein, Troie, Athènes, etc. Enfin, je parle sous votre contrôle pour Troie. Il y a des esclaves. Il y a des velléités impérialistes. Ce sont des peuples coloniaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... On le sait et on l'entend dans le texte. Mais j'ai l'impression, Denis Combouchner, par exemple, quand vous parlez du rapport au classique dans votre essai qui s'appelle « Des enfants instruits », vous qui connaissez très bien Derrida et savez ce que veut dire la déconstruction, c'est-à-dire c'est pas un slogan, ça non plus, c'est un processus intellectuel, il est bien plus important de déconstruire dans les textes classiques aussi grandioses que celui d'Homère certains stéréotypes indéniables que de cesser de les lire.
Il est bien plus important...
De les déconstruire, de les travailler, de montrer que ces textes sont bien plus compliqués.
Oui,
qu'il y a du féminin qui
oui.
est pensé à travers le masculin.
Oui,
vous voyez, vous avez l'air de dire qu'il y a ces problèmes, mais que les textes sont tellement riches qu'on aurait bien tort de les réduire à certains stéréotypes insuffisamment travaillés.
Oui, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a à déconstruire dans l'Iliade.
Ben, c'est ce que vous faites, excusez-moi. C'est ce que fait l'Hélène sacrée.
Pas tout à fait. On décrit une complexité qui est dans le texte. Oui. Et qui est la raison majeure avec la grande, en même temps que la grande poésie des formules.
Hein. Magnifique.
J'ai en tête là, à l'instant, le combat d'Hector et d'Ajax. Arrêtons là le combat. C'est la nuit. Et la nuit aussi mérite d'être obéie. Il y a des choses comme ça, de pure beauté, mais des centaines. Donc, c'est il y a à décrire une complexité qui est donnée dans le texte et qui rend effectivement l'épopée fascinante.
Mais c'est ce texte a des grands... Il faut le déplier tant il y a de plis.
Il faut
c'est ça la démarche.
Absolument.
Bon,
il faut
peut-être
le déplier.
À tort,
donc
je dis déconstruction.
Oui, mais alors, il y a un point où la déconstruction et puis interprétation et simple lecture se confondent.
Oui.
Mais en effet... Hélène Monsacré l'a dit très bien, ce sont des textes, enfin, on parle ici essentiellement de l'Iliade. L'Iliade est un texte absolument irréductible à toute espèce d'idéologie. Mmh. Évidemment, l'Iliade met en scène une société archaïque, hein, une société archaïque. Dans laquelle, oui, le masculin, le féminin sont distribués d'une certaine façon, dans laquelle il y a une certaine quantité de cruauté qui intervient. Bon, c'est le fait. Est-ce que nous en sommes complètement sortis? C'est une question. Mmh. Mais il n'y a pas à condamner un texte pareil, qui est l'œuvre d'un génie qui n'est même pas individuel. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de tout un génie collectif matérialisé, couché sur le papyrus, dans des conditions qui nous sont pas très bien connues, mais bon, par sans doute un auteur de génie. Mais c'est immense, et je pense que ce qui manque à nos lecteurs d'aujourd'hui, c'est le sentiment de cette immensité qui est d'ailleurs dont on peut trouver des exemples dans beaucoup 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 d'autres textes classiques.
Mais en tout cas, vous dites qu'il n'y a pas de morale. Il n'empêche que votre livre, Denis Kambouchner, Les enfants instruits, pose le problème de l'apprentissage d'une morale civique aussi à travers des textes qui ne sont pas d'emblée simple, moralement. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème, Hélène Monsacré, de ces questions-là, en ce moment?
En ce moment?
Oui, et par rapport à l'Iliade, est-ce que vous faites partie, comme Nicole Laureau, comme Françoise Héritier, vous les avez cités, vous montrez qu'il y a des pliures dans le texte d'Homère qui compliquent énormément les choses un peu massives, oui, que nous voyons, évidemment, très vite.
Bien sûr. Qui compliquent énormément, qui sont extraordinairement... il y a énormément d'ambivalence. On parlait de la souffrance, et on parle de l'héroïsme, du courage. Le courage, c'est d'aller devant, d'aller affronter en face,
oui,
tout le contraire de Paris, et d'aller au-devant de sa mort, pour... D'abord se qualifier comme un héros et ensuite mériter de vivre dans la mémoire des hommes à venir. Être courageux, ça ne veut pas dire être une machine, au contraire, sinon il n'y a pas d'héroïsme. Et la souffrance, les plus grandes douleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce poème très 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 ancien, le pic, le sommet de la souffrance, c'est une souffrance de femme. Quand Agamemnon, le roi, etc., le chef de l'armée grecque, est blessé et qu'il souffre, il souffre beaucoup. Comment souffre-t-il? Il souffre comme une femme en train d'accoucher.
C'est ce que dit le texte.
Absolument. Il y a énormément de subtilité qui montre que féminin, masculin, bien évidemment, Denis l'a dit, société très archaïque, chacun à sa place, bon, et suffisamment de fois, on lit, retourne à ta quenouille,
qu'est-ce que dit Hector à sa femme Andromaque?
Oui, ou...
Mais sans méconnaître qu'elle va souffrir, il sait très bien
qu'il... Ou Télémaque à sa mère, Pénélope, etc. Il n'empêche que, aussi bien Andromaque, aussi bien Hélène, aussi bien les femmes, aussi bien, qui ai-je oublié, Pénélope, sont des figures féminines qui sont héroïques aussi.
C'est peut-être Clytemnestre que vous avez oublié, celle qui va finir par
oui, mais
tuer.
Parce que Clytemnestre...
elle n'est pas chez Homère.
Elle est fantastique, Clytemnestre. Pour moi,
la
c'est
femme d'Agamemnon qui va le tuer pour avoir sacrifié Iphigénie.
C'est une des plus grandes héroïnes, mais malheureusement, bon, elle n'est pas, oui. pas dans le poème. Ce sont des personnes qui ont à leur tour, on peut dire, des traits masculins. Et pas seulement parce qu'elles sont la femme d'eux, mais parce qu'elles ont ces dispositions en elles. Donc, pour finir, ce feuilletage, il est extraordinairement subtil. Et c'est ce qui fait que cette œuvre est si belle et si grande. On peut y entrer à n'importe quel moment, au fond.
Bien pour finir, je vais vous citer, Hélène Monsacré, dans l'avant-propos que vous avez écrit cette année au livre qui est réimprimé par Albin Michel, votre livre « Les larmes d'Achille ». Dans cet essai sur Homère, écrivez-vous, rédigé il y a plus de 40 ans, je m'interrogeais sur les ambiguïtés de la figure du héros, ce héros tout de vaillance, mais aussi de sensibilité. Achille, le plus grand de tous, possède une force surnaturelle et des armes divines, mais il verse des larmes humaines. Et ces larmes, loin d'amoindrir sa virilité, la rehausse et la confirme. Dans sa façon de pleurer, le guerrier de l'Iliade révèle que la souffrance est une condition de son héroïsme. Destroy your soul. Ooh, rage. There's no room for rage in there. There's no room for rage in here. Find us some place to go to be mad. It's a sin to treat your body bad. Marvin Gaye, Anger, colère, 1978, Marvin Gaye, dont je rappelle qu'il est mort 6 ans plus tard d'une dispute pleine de colère entre lui et son père, qui a été suivie par un assassinat puisque son père est allé chercher un revolver et lui a tiré 2 coups de feu mortels. Merci beaucoup Hélène Monsacré, Denis Cambouchner, c'était merveilleux cette émission. Merci pour ce cadeau. C'est l'heure maintenant de la chronique du jeudi qui s'intitule Le fil philo. Elle est proposée en ce moment par Laurence de Villers qui aujourd'hui traite cette question. Vous n'arrivez pas à vous déconnecter? Eh bien la méthode du philosophe anglais du XVIIIe siècle, David Hume, peut vous aider.
Le fil philo. Vous avez passé la journée devant les écrans de téléphone ou d'ordinateur. Vous avez passé des heures dans ce monde virtuel. Comment retrouver le sens du réel, de ce qui est concret et présent? David Hume va vous y aider. Hier au soir, au restaurant, durant le dîner entre amis, vous n'avez pas pu vous empêcher de sortir votre portable. Pour rien. Comme cela. C'est devenu un geste instinctif. Vous ne levez plus la tête, en métro, en train, pendant les repas en famille, en amoureux même. Vous avez les yeux rivés sur l'écran. L'écran est pour vous désormais le moyen d'appréhender le monde. Mais voilà, vous direz Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle. Ce n'est pas le monde que vous appréhendez, ce n'est qu'une idée du monde, une reconstruction qui n'aura jamais le goût de la réalité. Vous ne ferez que naviguer, surfer d'idées générales en idées générales, lesquelles tiennent plus de l'interprétation, voire du fantasme, que de la réalité. Pourquoi ? Parce que la réalité a une saveur que rien ne remplace, et que l'on ne sait quelle est cette saveur qu'en la goûtant, en observant et en se confrontant au réel. Nous ne pouvons nous former une juste idée de la saveur d'un ananas, affirme David Hume, sans avoir effectivement goûté ce fruit. Cette phrase, subversive et définitive, se trouve dans son traité de la nature humaine, publié en 1739. Subversive, oui, parce que cela signifie que vous ne pouvez avoir une quelconque connaissance des êtres et des choses, ananas, planète, vous-même et les autres, qu'en passant par l'expérience que vous en faites. Sans cela, rien n'est vécu, mais rien n'est connu non plus. Faire l'expérience de l'ananas est l'unique moyen de savoir ce qu'est un ananas, ce fruit particulièrement exotique qui venait au XVIIIe siècle d'être apporté des Caraïbes et du Brésil. Mais tout est exotique si vous prenez le temps d'en faire l'expérience, de vous laisser toucher par ce qu'il a d'inattendu, de déroutant, bref. De réel. Le monde ne tient pas en quelques opinions partagées sur les réseaux. Le monde est l'expérience réelle que vous en faites. À vivre par écrans interposés, vous risquez de vous perdre vous-même, car vous n'êtes rien d'autre, affirme toujours Hume, que les sensations et les émotions qui vous traversent. Ce sentiment de tristesse, cette impression de paix, cet emballement, ces passions calmes ou ces passions violentes, pour parler comme Hume, qui vous animent, font tout ce que vous êtes. Ce ne sont pas les opinions ou les images publiées qui donnent du goût à la vie, c'est la vie elle-même. Je dîne, je joue au tric-trac, je parle et je me réjouis avec mes amis. Et si après, affirme Hume, je voulais revenir à toutes ces opinions ou idées interposées entre moi et la réalité, alors je trouverais cela bien froid. La réalité a une chaleur, un goût, des couleurs que rien ne peut égaler. Accordez-vous de ces moments particuliers où vous retrouvez la sensation inimitable du réel, la saveur de l'ananas.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Corinne Amar, Luna Hajla et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.